Procès plutôt chaotique. Dans le box des accusés, trois hommes pour une série de braquages à Rennes et Saint-Malo en 2000 et 2001. Un procès qui devrait durer trois semaines. Et puis les chiffres de la délinquance en Ille-et-Vilaine ont été dévoilés ce matin. Ils sont en baisse pour la cinquième année consécutive. Seul bémol et pas des moindres, les vols à main armée qui ont fait un bond de plus de 57% dans le département. On en reparle dans le journal dans quelques instants.
Alors à tout à l'heure, merci Marlène. Pour l'instant, place au manteau d'Arlequin, le magazine qui donne la parole à tous de préférence et encore à tous.
Au cœur de la rue et des associations, tout de suite la parole aux habitants avec le soutien du Crédit Mutuel de Bretagne.
Bienvenue sur le manteau d'Arlequin, la session d'expression des citoyens. Au sommaire de cette émission, Olaf avec Connectasso s'intéresse à un nouveau vecteur de lien, une langue, suivi de Monsieur Rue qui, lui, nous fait découvrir un héros rennais. Quant à nos aînés, elles nous font déguster des galettes des rois. Et pour finir, Fakine TV s'intéresse à l'élection de Barack Obama à quelques heures de son investiture. Mais pour commencer, de suite, Olaf avec Connectasso.
Bonjour, aujourd'hui un voyage à travers le monde, un voyage à travers une langue, l'espéranto, une découverte pour nous. Alors je suis avec Xavier. Comment on dit bonjour en espéranto?
Bonan tagon, ou saluton.
Très bien. Alors comment est-ce qu'on en arrive à vouloir apprendre l'espéranto? Comment ça vous est venu ça?
Eh bien moi c'est une rencontre sur internet. J'ai découvert il y a plus d'une douzaine d'années. Au hasard, j'ai découvert l'espéranto et puis surtout j'ai découvert peu de temps après que y avait des gens qui parlaient l'espéranto un peu partout dans le monde et du coup...
Et alors après c'est dur à apprendre?
Personnellement je l'ai appris très vite, en quelques semaines j'avais appris déjà les bases de la langue et puis après j'ai surtout pratiqué la langue et amélioré donc
l'espéranto. Alors c'est quoi les caractéristiques de l'espéranto? C'est que c'est facile à apprendre, ça s'écrit comme ça se prononce?
Oui, ça. C'est cela. C'est-à-dire, il y a une écriture phonétique de la langue. Ouais. Donc, effectivement, lorsqu'on sait écrire un mot, on sait aussi le prononcer, et vice-versa. Et du coup, ça facilite grandement effectivement, l'apprentissage. Mais il n'y a pas que cela comme caractéristique qui fait la facilité de la langue. Il y a aussi la construction du vocabulaire, qui est extrêmement régulière, et qui fait qu'avec un millier de mots de base, de l'espéranto, on a en fait accès au vocabulaire qui représente à peu près 10 000 mots du français.
D'accord. Donc,
parce qu'on peut combiner ces mots pour construire des mots plus compliqués. Par exemple, arbo, c'est l'arbre.
Ouais.
Arbaro, ça va être l'ensemble des arbres, ça va être la forêt.
Et d'accord.
Vous voyez, alors qu'en français, vous avez deux mots à prendre, arbre, forêt, et bien en espéranto, un seul mot suffit.
D'accord.
Et vous allez, avec ça aussi, construire plein d'autres mots plus subtil, arbareto, petit arbre, arbuste, etc. et de façon régulière.
Bon, alors, on imagine, une fois qu'on sait qu'on sait parler espéranto, on imagine que ça ouvre les portes du monde entier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se balader. C'est vrai, vous rencontrez des gens à l'autre bout du monde qui parlent.
Souvent, je dis, moi, ma propre expérience, j'ai découvert deux fois l'espéranto. D'abord, j'ai découvert la langue, dans un premier temps. Et puis, quelques années après, je suis vraiment passé à l'utilisation. Je suis allé à un congrès d'espéranto. Il se trouvait qu'il était en France, à Montpellier, à ce moment-là. C'était en 1998. Et j'ai découvert, c'est le plus gros congrès qui a lieu chaque année. On appelle ça le congrès mondial d'espéranto. Il y avait 3000 personnes de 70 pays différents.
D'accord.
Et j'ai découvert, mais alors j'ai été fasciné parce que d'un seul coup, je me rappelle vraiment mon sentiment lorsque je suis reparti de ce congrès, j'avais le sentiment que les frontières s'abolissaient un peu dans le monde, parce que j'avais des Lituaniens, des Cubains qui m'avaient invité à venir chez eux.
D'accord.
Et j'avais rencontré une diversité de profils socioculturels et de différents pays, etc. Ça a été vraiment une deuxième découverte, c'est la découverte des espérantophones.
Ça veut dire que quand on parle espéranto, on peut aller à l'autre bout du monde chez quelqu'un qui parle espéranto, et on peut recevoir quelqu'un qui, avec qui on va échanger en espéranto. Et on m'a dit qu'il y avait une espèce d'annuaire des gens qui parlent espéranto.
Oui, il existe même plusieurs annuaires. Il existe des annuaires d'associations, il existe aussi des annuaires de particuliers, comme moi, qui parlent espéranto et du coup disent bah, moi je trouverais sympa de recevoir des espérantophones. Et moi-même, quand je suis allé à l'étranger, aux États-Unis, en Espagne, dans différents pays, j'ai rencontré de tels espérantophones qui. Il faut voir aussi que tous ceux qui apprennent l'espéranto, ils le font quand même avec une démarche d'ouverture, de découverte des autres. Et ce sont souvent des gens extrêmement ouverts et intéressés par pour le dialogue.
Qui ont envie de dialoguer avec les autres. Et c'est le lien social.
J'ai rencontré comme ça des Américains. J'étais fasciné parce que les Américains, on le sait très bien, la plupart sont très repliés sur leur propre culture. Et bien, j'ai rencontré un Américain qui parlait plusieurs langues, un Américain qui apprenait le danois. Imaginez un Américain qui apprend le danois. Pourquoi ? Parce que au départ, il cherchait les ancêtres de sa famille au Danemark. Et puis, avec l'espéranto, eh bien, il a rencontré des Danois. Et puis après, pour aller plus loin, il s'est mis à apprendre le danois. Donc, c'est pas
dire. Alors, on va vous quitter pour aller retrouver Philippe, parce que Philippe, il parle lui aussi espéranto. Et on va s'apercevoir qu'il a d'autres choses encore à dire.
Ministis, qui est partout prenez, c'est la révision de M. Bistrio de Gaston.
Yes, qui est la révision, mi contrôlez bonan texton.
Ah, ça se bonne, Ministis. Qui est-ce encore petit chien?
Ah, non, il est petit chien, mais nous, les guises d'une, c'est un grand plaisir, en cas.
Donc, tu viste à ce que ça lui est le numéro de Gaston, non?
Non, non, c'est mi espérance, certes.
Bon, okay. Ben, je pense que vous avez tout compris de l'échange entre Xavier et Philippe. Moi, je reviens en français parce que c'est plus simple, Philippe. On n'a pas parlé... Qui a inventé l'espéranto ?
Alors, l'espéranto, ça a été inventé à la fin du 19e siècle par un médecin polonais qui s'appelait Zamenhof.
D'accord. Petit point d'histoire. Deuxième point, il y a beaucoup de gens en Ille-et-Vilaine qui apprennent l'espéranto, qui sont dans des associations.
Écoutez, il y a quelques clubs en Ille-et-Vilaine, alors je n'ai plus exactement le nom, mais c'est une petite dizaine. Sinon, dans le monde, on nous demande souvent combien il y a de gens qui parlent espéranto, c'est difficile de chiffrer, mais d'après le Quid ou l'UNESCO, on converge vers 2 millions de personnes à peu près dans le monde.
D'accord. Alors, en fait, on s'aperçoit que Internet a complètement modifié l'usage et l'apprentissage de l'espéranto, parce que l'espéranto, c'est une langue qui concerne tout le monde, et que Internet concerne aussi tout le monde. Donc, c'est référencé par Google, c'est la 23e langue sur Wikipédia. Allez-y, parlez-nous un peu de tout ça.
C'est la 22e langue aujourd'hui dans l'ordre des langues sur Wikipédia, avec un peu plus de 100 000 pages publiées.
Ouais.
Donc même devant certaines autres langues européennes, en fait. Ouais. C'est l'une des langues d'accès de Google, en fait, officiellement, dans le moteur de recherche Google.
Ouais.
L'espéranto est très visible sur Internet. Sur Wikipédia, vous avez espéranto entre l'espagnol et l'anglais, espagnol et English. Ouais. Entre les deux, vous avez espéranto souvent sur pas mal de pages. Donc ça vaut le coup d'aller regarder pour voir à quoi ça ressemble.
Donc il y a des logiciels qui marchent avec l'espéranto, des traitements de texte, des logiciels libres.
Oui, il y a pas mal. Vous avez OpenOffice qui est utilisable en espéranto, vous avez Firefox, un certain nombre d'autres logiciels comme ça sont accessibles en espéranto.
Et donc, il y a aussi des gens qui apprennent l'espéranto par Internet.
Oui, c'est même quasiment devenu la plus grosse source aujourd'hui de nouveaux espérantophones, parce qu'il y a tout un système de cours sur Internet avec des correcteurs bénévoles. On est dans une logique de gratuité. Souvent, n'importe qui peut dire « tiens, je vais commencer l'espéranto ». On trouve facilement les sites des associations nationales, par exemple.
Ouais.
Et là, on peut s'inscrire pour apprendre. Et donc, c'est un cours par correspondance, mais à la source Internet.
D'accord, c'est-à-dire qu'on apprend par correspondance tout seul.
Oui, et en plus, comme la langue est phonétique, c'est-à-dire que l'espéranto, ça s'écrit comme ça se prononce.
Hein.
On ne dit jamais comment ça s'écrit, comment ça se prononce.
Ouais.
Ça s'écrit comme ça se prononce. Donc quand vous apprenez par écrit, contrairement à l'anglais par exemple, quand vous apprenez par écrit, vous savez comment ça se dit, et vous avez des gens qui apprennent quasiment tout seuls chez eux devant l'ordinateur, et après quand ils arrivent dans le monde réel, en 2-3 jours, ils sont capables de parler correctement.
Alors, le chef d'entreprise que vous êtes, il pourrait être intéressé par l'utilisation de l'espéranto dans des multinationales ou dans des agences d'autres pays, etc.
Ça, pourquoi pas?
Ben, tout à fait, oui, parce que l'espéranto a une caractéristique intéressante, surtout par rapport à l'autre langue internationale bien connue qui est l'anglais.
Oui.
Cet espéranto, c'est quand même beaucoup plus facile à apprendre. Hein.
Oui.
Il y a une étude qui montre que pour un Français, l'espéranto, c'est à peu près 10 fois plus rapide à apprendre. Et ça, ça peut parler quelque part. Si vous avez une entreprise qui, par exemple, a des filiales à l'étranger, s'il y a du personnel qui a peut-être des difficultés à s'exprimer entre collègues de pays étrangers, ça peut être une solution intéressante parce que le temps de formation est quand même relativement court par rapport aux solutions habituelles. Et actuellement, je peux vous faire une confidence, il y a quelques chefs d'entreprise dans le département qui sont en train de mener une réflexion à ce sujet, et il y a une association d'entrepreneurs qui va bientôt se créer par rapport à cette problématique.
Bon, vous nous dites bonsoir en espéranto.
Oui, bonan vespere.
Et moi, je vous dis bonsoir en français. À la semaine prochaine sur Connectasso.
Après l'espéranto, Monsieur Rue va nous parler d'un héros malgré lui, Jean Coquelin.
Bon alors, Jérôme, cette semaine, nous nous trouvons dans la rue Jean Coquelin. Jean Coquelin est né en 1908 à Rimoux. C'est un père de famille ordinaire qui est conducteur de train à la SNCF. Et le jour du 31 octobre 1957, il est aux commandes du train qui va de Rennes à Saint-Malo. Et puis, comme à son habitude, le train roule à 90 km/h environ. Eh bien, il va charger la chaudière en charbon. Et là, eh bien, il est victime d'un retour de flamme. Ses vêtements prennent feu. Il est transformé en torche humaine. Mais oui, mais voilà, c'est que Saint-Malo est un terminus. Le train arrive à 90 km/h. Il y a plein de passagers à l'intérieur de la gare, mais il y a aussi 500 passagers à l'intérieur du train. Et là, ça va être un véritable massacre. Vous imaginez la situation. Le train se dirige vers le terminus, la gare de Saint-Malo. Et lui, les flammes sont en train de le brûler atrocement. Eh bien, il n'a qu'une seule idée en tête. Arrêter ce train. C'est ce qu'il va faire. Il va y réussir. Mais pour cela, il effectue des manœuvres qui vont durer jusqu'à 30 secondes. Vous imaginez la situation. Et là, une fois que le train est stoppé, il va se jeter sur le balastre, en dehors du train. Et là, ses collègues vont venir le secourir, vont lui donner un coup de main, le rouler dans l'herbe, ils vont se brûler eux-mêmes les mains. Et là, il va être dirigé vers l'Hôtel Dieu à Rennes. Et vu son état, eh bien, il va être transporté au centre des grands brûlés de Nantes. Il va se produire alors un énorme élan de solidarité. Des centaines de cheminots, de ses collègues, vont être volontaires pour des dons de sang, mais aussi des dons de peau. Il va avoir aussi toute la sympathie, mais surtout la reconnaissance de tous les voyageurs du train. Malheureusement, Jean Coquelin va succomber à ses blessures le 11 novembre 1957. Ses obsèques vont avoir une dimension pratiquement nationale, en présence d'autorités, mais aussi de milliers de gens. 9 jours plus tard, la ville de Rennes va décider de donner le nom à une nouvelle voie, principalement occupée par des cheminots, celle-ci. Et en janvier 1958, il va même y avoir une pétition qui va arriver sur le bureau du maire, dans un lotissement, le lotissement des Castors, occupé par des cheminots, qui vont demander eux aussi à ce qu'on leur procure ce nom. Malheureusement, il a déjà été donné. Quant à la SNCF, elle a décidé de donner le nom de son stade, le stade Jean Coquelin, qui est devenu un héros malgré lui. Allez Jérôme, à la prochaine fois pour une nouvelle voix.
Après le héros de Rennes-Saint-Malo, on retrouve nos aînés qui s'intéressent à la galette des rois et vont s'inviter à dormir avec un toit pour toi.
Droit de la famille, protection du conjoint et de la personne vulnérable. Le notaire, un professionnel du droit. Le notaire rend vos projets plus sûrs.
De suite, Planète Senior.
Bienvenue sur Planète Senior. On va regarder un reportage sur la galette des rois. Vous aimez la galette des rois?
Quand elle est bonne.
Thank you.
là, vous préparez les galettes des rois.
Là, on prépare des galettes des rois, là.
Mais alors, ce sont des galettes à la frangipane.
Des galettes à la frangipane.
Vous ne faites plus les brioches qu'on faisait dans le temps.
Tout à fait, si, si, si.
Dans le temps, c'était plutôt
la brioche.
Oui. C'était plutôt la brioche.
Ah, dans notre temps, c'était la brioche avec la fève. Alors, ce n'était pas des petits sujets comme maintenant.
C'était un haricot, comme on
dit. Une fève. Qu'on mettait dedans. Mais ça.
Ça remonte à loin. Ça, moi, j'ai pas, moi, j'ai pas connu ça, moi.
Ça remonte à plus de 80 ans. La frangipane, comment vous la faites exactement? C'est à base d'amandes.
C'est à base de poudre d'amande, d'œuf et de beurre.
Et de beurre. Tout ça malaxé,
tout
vous
ça
l'a aromatisé et... au rhum.
Aromatisé au rhum.
Et vous conseillez de la manger tiède ou froide?
Bon, c'est selon les goûts, mais c'est meilleur tiède quand même.
Eh bien, moi, je la préfère froide.
C'est bien pour ça que je dis c'est selon les goûts.
Du moment que ça se mange, moi, je prends ça n'importe comment. C'est tiède ou froid, moi, du moment que ça...
Ah non. C'était des grands chaudrons autrefois. Et tout se faisait à la main. Fallait tourner.
Alors,
maintenant, beaucoup moins de fatigue.
Moins de fatigue, c'est-à-dire moins de temps de travail.
Ben, moins de temps de travail, on passe encore pas mal de temps dans nos labos quand même.
Oui, quand même, mais vous en faites beaucoup plus.
Voilà, c'est beaucoup plus varié. C'est beaucoup plus varié que dans le temps. Et après, tenez, on met les fèves. Et les fèves, on les met jamais dans le milieu, on les met...
Ah, on les met jamais au milieu.
Non, jamais. Ça, parce que quand on coupe la galette, oui. On la met au milieu, ah, bah, elle va se faire découper 5-6 fois. Ça, et là, on n'a qu'une chance de se faire découper.
Vous aimez bien faire vos galettes, là?
Ah oui. Le plaisir, c'est de voir la galette qui sort du four, une fois bien rayée, donc bien dorée, comme ça. Puis, et surtout quand elle n'en paraît rétrécie, qu'elle reste bien ronde. Là, on se dit, on a bien travaillé.
Ça sent bon, hein?
Ça donne envie de manger.
C'est pas bon pour Mali? Si, si, je
te le mange.
Et voilà. Toute chaude.
Elle est tellement délicieuse que je vous parle en mangeant.
Et ce n'est pas poli de parler la bouche pleine, mais pour une fois, on fait une exception.
Voilà, exactement.
Après la galette des rois, nous allons aller voir Frédéric. Dans une émission, un toit pour toi.
Alors, le concept d'un toit pour toi donc, est basé sur le principe du logement intergénérationnel et le but c'est un petit peu de rapprocher deux générations dans lesquelles il y a un gros fossé qui les sépare, donc les personnes âgées d'un côté et les jeunes étudiants salariés de l'autre. J'ai pas la prétention de pouvoir résoudre ce problème par rapport à l'isolement des personnes âgées, mais je peux apporter une solution alternative en proposant tout simplement à des jeunes étudiants ou salariés d'intégrer un foyer, donc de venir être hébergé chez une personne qui est seule pour apporter un petit peu de compagnie. Ceci se fait sans aucun échange monétaire, c'est juste un échange de bons procédés. Pratique, comment ça marche? Eh bien, donc, il suffit de disposer d'une chambre meublée, d'être ouverte d'esprit, d'avoir envie d'accueillir quelqu'un. Et moi, je fais en sorte de trouver la personne la plus appropriée et qui sera toujours présente et disponible pour partager un petit peu de temps, apporter un petit peu de joie de vivre et également aider au quotidien. Ça peut être des petites courses, accompagner pour une sortie ou aller chercher des médicaments, choses comme ça. Quelque chose qui facilite le quotidien. Alors, la mise en relation entre les personnes âgées et les étudiants donc, se fait toujours au logement de la personne âgée, donc de préférence avec la présence des parents de cet étudiant et pourquoi pas les enfants également de cette personne âgée. Ça permet d'avoir un cadre un peu plus posé, tout le monde se sent plus rassuré.
Alors, ça s'est passé ici avec mes parents, et puis il y avait Frédéric, il y avait Jeanne, son fils, etc. Puis ça s'est très bien passé, le contact génial, tout était bien, on a discuté, etc. Et puis ça s'est passé comme à la lettre à la poste.
Je ne veux pas aller en maison de retraite, j'en ai pas les moyens d'une part et je n'aime pas la solitude. Voilà, et la présence d'une personne m'enchante.
Alors l'échange avec la personne se passe parce que c'est très convivial, c'est très simple, c'est comme avec mes grands-parents, on discute. Je lui prépare à manger, on se prépare à manger ensemble. C'est un lien qui se crée et puis après, c'est dur de s'en défaire, quoi. C'est comme une seconde famille.
Forcément, c'est sympathique. C'est moins stressant pour moi que la solitude. Parce que le soir, je panique. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. C'est comme ça. Oh, très bien. Voilà, moi, je suis très souple et elle aussi. On s'arrange très très bien. Puis j'ai toujours à sa disposition quelque chose dans le frigo, au cas où elle a oublié quelque chose.
Alors c'est fini pour Planète Sonore. À la semaine prochaine.
Droit de la famille. Protection du conjoint et de la personne vulnérable. Le notaire, un professionnel du droit. Le notaire rend vos projets plus sûrs.
Après cette belle initiative, on retrouve les étudiants de Rennes 2 avec Fakine TV qui nous propose un sujet sur l'élection de Barack Obama il y a quelques mois, à quelques heures de l'investiture de ce président américain.
Ce soir, ce sont les élections américaines et je suis venue à l'Institut franco-américain avoir quelques informations, voir comment ça se déroulait. Comme beaucoup, je soutiens plus Obama que McCain, c'est sûr, mais j'avoue qu'il faudrait que j'aime beaucoup plus au niveau des programmes parce que je soutiens Obama de façon totale mais sans connaître tout à fait très bien son programme.
Oui, des Français, surtout des Français. Ok. Allez, ça va.
C'est un grand événement et oui, je veux Obama gagne. J'espère que Obama gagne. Il y a beaucoup de choses sur Obama, mais je ne vois pas beaucoup d'articles sur McCain, mais mon avis c'est mieux parce que j'aime Obama.
J'adore McCain, parce que ma famille est militaire et c'est très une grande raison pour voter pour McCain pour moi, parce que c'est la guerre est très importante pour moi et ma famille. Et c'est très très important et McCain est dans ma cour parce que c'est il est dans la guerre de Vietnam et c'est il est militaire aussi et c'est très important pour expresser mon émotion de McCain parce que j'adore McCain beaucoup et c'est difficile en France pour M. McCain. J'ai écrit une lettre à le gouvernement des États-Unis et les États-Unis envoient un ballot à moi trois semaines en avant.
Qu'est-ce qui va changer aux États-Unis si Obama passe?
La guerre en Irak finirait probablement, mais plus tôt. Si Obama gagne, il veut arrêter la guerre en Irak en le prochain 19 mois. Et oui, McCain veut continuer la guerre. Aussi, il veut changer l'économie et j'espère faire l'économie mieux. Oui.
Je sais que je le soutiens plus ou moins dans sa politique. Cousin en Irak, enfin, voilà, il va faire revenir les troupes et donc ça s'arrête, c'est positif. Et je pense que pour les droits des minorités, ça va changer les choses aussi, du moins j'espère.
Qui aurait cru il y a un an que Barack Obama aurait vu l'investiture démocrate, ou même John McCain, il était donné perdant. Hein, donc tout change en politique, rien n'est jamais acquis. Je vous en prie. Je vous en prie, demain, petit déjeuner.
Cette session de Parole aux citoyens s'achève. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Crédit Mutuel de Bretagne, la banque à qui parler.
Votre argent vous rapporte 3% jusqu'à fin 2009. Avec le compte courant rémunéré à 3%, votre argent travaille tous les jours. C'est vraiment le moment d'être caisse d'épargne. Même si vous venez d'ailleurs.
Ok, messieurs, on passe. Allons, mon bras.
Jean-Claude.
Toutes vos sorties sont dans les pages Sortir de Ouest France. Dans un monde où rien ne dure,
choses sur lesquelles on peut compter, qui a si